On est dans le survol de la Bible, section de l'Ancien Testament, dans les petits prophètes. On arrive au prophète Joël ce matin et on va se courber ensemble dans un mot de prière. Est-ce que l'enregistrement est parti? Merci. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole nous donne la vie parce que par ta parole, ton esprit nous parle de toi, nous rappelle qui tu es, Seigneur, nous rappelle ta grâce, ton amour, ta patience, ta sainteté, ta beauté, Seigneur. Je veux te demander, Père, ce matin, de venir nous rencontrer alors qu'on va survoler ce livre. Viens, Seigneur, l'appliquer à nos cœurs, viens parler à nos cœurs et rendre, Seigneur, les livres prophétiques des livres précieux dans notre marche spirituelle, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, vous avez vu avec Samuel le livre de Osée. Et puis, cette semaine, on regarde le livre de Joël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déjà un mot à me dire sur le livre de Joël? C'est un des petits prophètes, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au livre de Joël? Actes des apôtres. Certaines des prophéties dans le livre des Actes des apôtres nous viennent de Joël. Pierre au jour de la Pentecôte. Vous allez vous rappeler, Pierre, au jour de la Pentecôte, a simplement dit que ce que le prophète Joël avait annoncé s'accomplissait à ce moment-là, au moment même de la Pentecôte. Donc, c'est un livre qui est précieux pour nous, puisqu'il y a des prophéties qui sont annoncées dans ce livre-là, qui trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui. Oui. OK, c'est une bonne question. Je vais la répéter, oui. Puis on va la traiter vers la fin de la leçon, quand on va aller un petit peu plus dans cette portion-là. Si j'oublie, fais-moi signe, OK, Jérôme? La question qui est posée, c'est précisément ce que Joël exprime comme prophétie. Gérard, lui, fait l'observation, il dit c'est pas ça qui s'est produit vraiment à la Pentecôte. Pourtant, l'apôtre Pierre nous dit que cette prophétie-là s'accomplit. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ça, sans remettre en question l'inspiration des Écritures? Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça? On revient sur cette question-là un petit peu plus loin. C'est une excellente question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez mentionner sur le livre de Joël avant qu'on introduise le personnage, le thème du livre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous frappe dans ce livre-là? Non, ça va? Alors, le thème. Si on voulait donner un thème au livre de Joël, bien, c'est un thème qui est récurrent dans la majorité des livres prophétiques, d'accord? C'est vraiment le thème des jugements de Dieu qui sont annoncés sur le peuple d'Israël, dans ce cas-ci sur Juda, et puis de l'appel à la repentance. C'est pas mal ça le thème principal. Il y a une notion qui vient dans le livre de Joël qu'on trouvait pas vraiment avant. Pas comme ça, c'est la notion du jour de l'Éternel, d'accord? Toute l'idée du jour de l'Éternel, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais donc, le thème principal, on pourrait le résumer comme ça, à l'annonce du jugement et du salut de Dieu au jour de l'Éternel, Juda doit s'humilier devant Dieu et se repentir. Il va être question des autres nations, mais la repentance à laquelle quelqu'un est invité, c'est vraiment la repentance de Juda. D'accord? Date de rédaction. Bien, le livre de Joël est particulier. Regardez avec moi, par exemple, Osée. Allez dans Osée 1:1. Osée 1:1, voici ce qu'on lit. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Qu'est-ce que ça me donne comme information, Osée 1:1? Ça situe le personnage, ce prophète-là, dans son contexte historique, d'accord? Alors, quel était le point de repère historique principal? C'est encore le cas aujourd'hui. Bien souvent, c'était qui est au pouvoir, qui est roi, D'accord? Alors, on se situe dans le temps par rapport à qui est en train de régner. Et dans le cas des deux royaumes, Israël est divisé en deux royaumes pendant une bonne partie de son histoire. Alors, qui est en train de régner dans le royaume du Nord? Qui est en train de régner dans le royaume du Sud? Et c'est comme ça qu'on se situe. Lorsqu'on s'en va dans Joël, tournez avec moi, revenez avec moi dans Joël 1. Joël 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. J'ai aucune information, sinon le nom de Joël et le nom de son père Pétuel, d'accord? Je ne sais pas si Joël était un sacrificateur, si c'était un prêtre. Je ne sais pas sous quel roi est-ce qu'il a prophétisé. Je n'ai pas ces informations historiques-là, d'accord? Et c'est une des particularités du livre de Joël. Pour le situer dans le temps, on a très, très peu d'informations. Et s'ajoute à ça un deuxième élément, c'est que le prophète Joël lui-même n'apparaît qu'ici dans le livre de Joël. D'accord? Alors, on ne sait pas non plus, on n'a pas d'autres références. Souvent pour d'autres prophètes, il va être fait référence, par exemple, Daniel va parler de Jérémie, des livres prophétiques vont parler d'autres livres prophétiques, vous comprenez, ou bien dans les livres narratifs, on va nous parler de tel roi, de tel prophète qui était sous tel roi. Dans le cas de Joël, il y a plein d'autres Joël dans la Bible, mais vraiment, on ne peut pas les identifier avec celui-là. Et donc, on ne sait pas à quel moment exactement il a exercé son ministère. On n'a pas d'autres références. C'est sûr que le fait qu'il n'y a pas un paquet de références données laisse à entendre qu'à l'époque, il était très connu. D'accord? Si je n'ai pas besoin de m'introduire ou de me présenter en disant Yannick, fils de Jean-Pierre, pasteur de l'Église de l'Espoir, puis je dis juste Yannick, mais en principe, c'est parce que vous connaissez Yannick. D'accord? Alors, à son époque, ça sous-entend qu'il était très connu. Pour nous, ça nous pose un problème parce qu'historiquement, c'est difficile de se situer puisqu'on n'a pas vécu à son époque à lui, d'accord? Et donc, c'est une des difficultés avec le livre de Joël. Ceci étant dit, c'est pas ça n'a pas amené les Juifs à douter de son inspiration ou à remettre en question l'idée de le mettre dans le canon des Écritures. C'est pas un livre sur lequel il y a eu des discussions semblables. C'est juste que pour clarifier certains éléments dans la prophétie, bien, on manque de certaines informations. Donc, lorsqu'on parle de date de rédaction, ben, il y a deux possibilités. Celle qu'Alexandre a reflétée ici dans les notes est une possibilité. Je vais vous en mentionner une autre aussi brièvement. Lorsqu'on parle de date de rédaction, bien, je vais juste lire le petit paragraphe ici. Puisqu'aucune mention de nation ou de roi en Israël n'est faite dans Joël, la possibilité de dater le livre est rendue possible seulement par sa position dans le canon des Écritures. Alors ça, c'est un premier indice, d'accord? Il est placé avec les petits prophètes autour de d'autres petits prophètes qui se passent dans une période donnée. Alors, j'aurai un indice possible ici. Le style similaire à celui des prophètes Osée et Amos nous amène à conclure que la rédaction a possiblement eu lieu dans les environs de 800 avant Jésus-Christ. D'accord? Alors ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité qui est très, très différente, ce serait que il a été écrit plus tard, puis qu'il a été écrit, là suivez-moi, là, c'est un peu technique ce que je veux dire, qui a été écrit avec peu d'informations historiques pour pouvoir être présenté comme une lamentation modèle du peuple d'Israël quand ça va mal. Je m'explique. Dans les psaumes, lorsqu'on va dans les psaumes, il y a des psaumes qu'on peut situer dans le temps. Repentance de David. Quand je vous donne des exemples concrets, on peut le placer dans le temps. On sait qui, on sait quoi, on sait le contexte, tout ça. Il y a des psaumes qui adressent des situations très précises aussi. Mais il y a un certain nombre de psaumes, qu'on appelle les psaumes des degrés. Ce sont des psaumes que le peuple chantait à chaque année lors de certaines fêtes religieuses. Ces psaumes-là ont été écrits par des chefs religieux de l'époque pour pouvoir être priés à nouveau à chaque année. D'accord? Et donc, elle ne se réfère pas à une chose en particulier. Je vais vous donner un exemple dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle du Notre Père, bien, on a une prière ici avec le Notre Père qui vise pas une situation précise. Jésus nous enseigne sur la prière, puis cette prière-là est applicable à tout le monde en tout temps. D'accord? On énonce des vérités. C'est Dieu qui règne, on veut son règne dans notre vie, sur la terre comme au ciel. Donc, c'est une prière un peu générique, si je peux dire, qui va pouvoir être récupéré par tout le monde, d'accord? Certains des psaumes sont comme ça. Ce sont des psaumes qui étaient faits pour pouvoir traverser le temps et qu'à chaque année, le peuple puisse prier ces psaumes-là lors des fêtes. Il peut avoir des références historiques à des choses qu'Israël a vécues, tout ça, mais on devait les refaire à chaque année, d'accord? C'est une possibilité avec le livre de Joël aussi, que ce soit vraiment un texte prophétique, c'est vraiment un prophète dans un moment donné, mais lorsque Dieu l'a inspiré pour écrire son livre, il a omis plein d'informations historiques pour que ça devienne un modèle de lamentation. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions juste sur ça, là? Parce que je vois des sourcils froncés un peu, là. Allez-y avec des questions si je peux clarifier ou je vais le faire un petit peu plus loin en avançant. Est-ce que vous me suivez quand je parle d'une lamentation un peu générique, comme pour tout le monde? Non? Faites juste signe de tête, oui? À peu près? OK. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple, parce qu'on le trouve aussi dans les psaumes. Par exemple, repentance de David dans les psaumes. David raconte une histoire avec laquelle on va s'identifier, mais en partie, d'accord? Lorsque David dit « c'est contre toi seul que j'ai péché », ça a une autre portée quand tu penses à un homme qui a fomenté, qui a préparé un meurtre, d'accord? Qui a volé la femme d'un autre, qui a préparé un meurtre, qui était un roi. Puis lorsque la majorité d'entre nous, lorsqu'on s'identifie à ce psaume-là pour nous-mêmes, pour notre propre vie, on est obligé à un moment donné d'être quand même humble puis dire « Seigneur, si tu as pardonné à lui, tu peux me pardonner à moi parce que vraiment, c'était écœurant ce qu'il a fait. Je me suis pas rendu là, Dieu merci. » D'accord? Alors, c'est pas une prière de repentance générique. Elle a un contexte précis qui fait que je vais puiser des choses dedans. D'accord? Il y a d'autres psaumes où je ne sais pas c'est à qui ça, je sais pas qui l'a écrit, je sais pas, je ne connais pas le moment précis et je peux tout simplement prendre tout le psaume puis me l'approprier, d'accord? Mais c'est un petit peu la même affaire avec les textes prophétiques. Il y a des textes prophétiques qui sont dans des contextes très 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 précis et qui sont applicables à un contexte très précis. Par exemple, lorsque le peuple est en déportation et qu'on a des prophéties qui nous annoncent un retour du peuple, je vais en tirer des principes pour les appliquer à ma vie, mais en principe, je ne vivrai pas ça. D'accord? Donc, une hypothèse par rapport au livre prophétique de Joël, c'est justement, c'est que tous les éléments plus précis n'auraient pas été rédigés afin que le peuple puisse régulièrement faire cette prière-là, prier le livre de Joël comme une lamentation lorsque le peuple sent qu'il est loin de Dieu. Je vais juste me placer comme entre les deux. On va se voir. OK. Petit élément technique ici pour l'audio. On va essayer de le clarifier en avançant. Je me rends compte que c'est un petit peu complexe, mon affaire. Donc, pour l'auteur, mais c'est ça, ce que j'ai mentionné, c'est que on n'a pas à douter que ce soit Joël l'auteur. Le hic qu'on a, c'est qu'on ne sait pas c'est qui ce Joël-là. D'accord? C'est un prophète. On n'a pas d'autres livres pour le situer. Ça arrive à quelques reprises dans les Écritures qu'on a des personnages qui apparaissent une fois, tu ne les vois plus après, puis tu dis, waouh, OK, il avait de l'air d'être connu dans son époque, tu sais, mais tu n'as pas d'autres référents. Les Écritures sont tellement riches, le fait qu'on a tellement d'histoires, bien souvent, il y a des références qui sont faites au même personnage dans d'autres livres, puis là, tu arrives à faire une petite biographie du gars, tu dis, OK, il a vécu à telle époque, il s'est passé ça dans sa vie. Pour Joël, on n'a pas ces informations-là. Sinon que c'était un prophète, d'accord? Comme je vous dis, l'inspiration de ce livre-là, l'inspiration divine de ce livre-là, ça, le fait que ce soit justifié, qu'il se retrouve dans le canon des Écritures, n'a pas été questionné, n'a pas été remis en question, ni par les Juifs lors de la formation du canon de l'Ancien Testament. D'accord? Ni dans le Nouveau Testament, d'autant plus que Pierre, Paul vont faire allusion, ou sinon citer littéralement des passages du prophète Joël. On va les voir ensemble tout à l'heure. OK, si on parle de la structure du livre, ben, il y a une structure très similaire à la majorité des livres prophétiques. D'accord? C'est-à-dire, il y a une introduction, ensuite de ça, il y a une annonce de jugement qui s'en vient sur Israël. Et puis, il y a un appel à la repentance, d'accord? Et il y a une annonce ensuite de cela, de jugement contre les ennemis d'Israël dont Dieu s'est servi pour châtier Israël, d'accord? Alors ça, c'est un pattern constant dans les livres prophétiques, c'est un pattern constant, par exemple, dans le livre des juges aussi. Dieu décrit, Dieu condamne, il met au grand jour les péchés d'Israël. Il annonce qu'il va châtier en conséquence, qu'il va le faire par les mains des ennemis d'Israël. Il invite Israël à la repentance. Et il annonce qu'au jour où Israël va se repentir, Dieu va maintenant châtier les ennemis d'Israël dont il s'est servi, qui eux-mêmes se sont enorgueillis de leur puissance sans réaliser qu'ils étaient en réalité l'épée dans la main de l'Éternel pour pouvoir châtier son peuple. Est-ce que ça va? C'est assez clair. Donc, on a cette structure-là. Si on le regarde en détail, là, juste à la note 4, introduction, c'est les versets 1 et 2, 1, 2, 3, d'accord, dans Joël 1. Ensuite de ça, on aurait dû les retrancher là, juste avant. Après ça, le jugement au jour de l'Éternel. On va venir sur la question du jour de l'Éternel. Jugement de Dieu, appel à la repentance. La grâce au jour de l'Éternel. Encore une fois, on va préciser c'est quoi le jour de l'Éternel. La grâce au jour de l'Éternel. Là, il y a des promesses de salut. Ces promesses de salut-là, si vous allez dans promesses de restauration au chapitre 3, ces promesses de restauration-là impliquent que ça va passer par le jugement des nations et qu'à la fin, on va trouver une bénédiction ultime. D'accord? Le livre de Joël est particulier, comme plusieurs des livres prophétiques. Et ça, c'est important que vous sachiez quand vous lisez des livres prophétiques, autrement vous allez avoir l'impression que vous comprenez absolument rien de ce qui se passe. Qui a déjà entendu l'image du prophète qui est sur le sommet d'une montagne puis qui voit des pointes de montagne qui apparaissent? Avez-vous déjà entendu ça? Pardon? Ouais, admettons, il y a une vue. Mais ça, c'est on l'utilise. Il dit qu'on voit des fois dans des films justement des prophètes qui sont sur le sommet d'une montagne, des choses comme ça. Maintenant, c'est pas l'image physique que je vais vous donner, c'est pour expliquer ce qu'on voit ici, d'accord? Dans Joël, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, si vous avez lu dernièrement le livre de Joël pour juste le rafraîchir à votre esprit, il y a des prophéties qui ont ça sonne comme la fin des temps, d'accord? Ça sonne comme la consommation de toute chose. Ça arrive vraiment là au moment où le Seigneur va revenir. Il y a d'autres prophéties qui parlent de quelque chose qui est plus imminent, une restauration physique où Israël va pouvoir reprendre le pouvoir sur son territoire. Il y a cette prophétie-là que Pierre nous dit qui s'accomplit au jour de la Pentecôte, d'accord? Et t'as pas de note dans le texte qui dit, OK, là les amis, j'ai reçu une prophétie qui s'applique pour les 150 prochaines années. Ma prochaine prophétie après va s'appliquer dans 600 ans, puis l'autre, ben c'est à la fin du monde. D'accord? Donc, on n'a pas ces notes-là, ces informations-là. Lorsqu'on est dans les livres prophétiques, on est dans une prophétie, il y a souvent une dimension mystérieuse. L'image qu'on donne souvent pour essayer de comprendre ce qui se passe, bien, c'est la suivante. C'est comme si, c'est juste une image. C'est comme si au moment où le prophète reçoit les révélations de la part de Dieu, c'est comme s'il était sur le sommet d'une montagne, puis je prends ce qu'il va voir là comme l'histoire de l'humanité devant lui, l'histoire d'Israël, l'histoire de l'humanité. Et cette histoire-là est pas linéaire. Donc le prophète voit pas nécessairement chaque jour, chaque année, chaque époque jusqu'à la fin des temps. Il voit des cimes qui dépassent et puis il va décrire ce qui apparaît là. Quand tu es sur le sommet d'une montagne, la deuxième vallée, tu la vois pas. Tu peux voir la première, la deuxième, tu la vois pas. La troisième, encore moins. Puis il y a même des montagnes que tu verras pas parce qu'à un moment donné, tu vas voir la plus haute qui est devant toi, puis les autres, tu vas les perdre de vue, d'accord? Alors, c'est un peu l'image qu'on donne pour dire, le prophète est là, il reçoit une révélation de Dieu, il voit l'avenir. Mais ce qu'il voit de l'avenir, c'est parcellaire, c'est des parties seulement de l'avenir, parce qu'il va voir des grands moments dans l'avenir, puis il y a des trous, d'accord? S'ajoute à ça le fait que bien souvent, dans les livres prophétiques, ben les montagnes sont pas toutes dans l'ordre, d'accord? Fait que ça complique encore un petit peu plus les affaires. Mais c'est juste pour dire que quand on lit un livre prophétique, lorsqu'on lit un livre prophétique, des fois on a des indices historiques, puis nous qui vivons au Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà accomplies. La venue du Messie, l'Église, les nations qui viennent vers l'Éternel. Écoutez, on est en plein là-dedans, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies. Alors là, tu lis un livre prophétique, puis tu dis, ah, ça vient de se passer là. Puis là, tu continues trois versets plus loin, puis là, tu dis, attends un peu, il me semble que Jésus a parlé de ça, la lune qui change en sang, puis wow, on est rendu où? OK, on est où dans le temps? Là, t'es mêlé, d'accord? C'est ça, les livres prophétiques. Et donc, c'est pas là pour qu'on puisse expliquer chaque détail, c'est là pour nous donner une perspective d'avenir et parler à nos cœurs. Alors, en disant ceci, je vais juste vous ramener au but premier. C'est quoi le but premier des livres prophétiques? Question piège. C'est quoi le but premier des livres prophétiques?
L'annonce d'un sauveur.
c'est vrai, je n'avais pas pensé à celle-là, mais ça résume bien tout. C'est quoi le but premier, plus pratico-pratique que ça? Pardon? C'est ça, c'est d'amener le peuple à la repentance. Le but premier des livres prophétiques, c'est pas d'annoncer l'avenir. D'accord? C'est toujours d'exposer le cœur de Dieu. Rappelez-vous de l'image que j'ai donnée lorsqu'on a commencé la section des livres prophétiques. Quand vous pensez aux psaumes, quand vous pensez aux livres de sagesse, psaumes, ecclésiastes, tout ça, pensez au cœur de l'adorateur qui s'adresse à Dieu. Dans les psaumes, on voit beaucoup le cœur de l'humain qui aime Dieu. Puis on rentre dans son cœur, on voit ses troubles, ses doutes, ses colères, ses joies, ça c'est les psaumes. Tu vois le cœur de l'adorateur. Quand tu vas dans les livres prophétiques, tu vois le cœur de Dieu. D'accord? On a comme deux perspectives. Quand je suis dans les psaumes, j'ai la possibilité d'entrer dans la chambre intime de quelqu'un qui fait son culte personnel, bien concrètement dans sa journée, il vient de perdre sa job puis il est en joie le vert. Okay? Je suis dans les psaumes. Donc, je suis avec un adorateur, une personne qui vit de la piété, puis je suis avec son cœur. J'ai accès à son cœur. C'est ça qui est merveilleux. Et donc, on s'identifie à ça. Quand j'arrive dans les livres prophétiques, c'est comme si Dieu m'amenait à côté de lui. Je suis avec lui quand il lance toutes ses réflexions, j'ai accès au cœur de Dieu. D'accord? C'est ce qui fait, parce que là, lorsqu'on connaît l'histoire d'Israël, mais on comprend que ce que ça donne à travers les livres prophétiques, c'est qu'on voit beaucoup Dieu malheureux. Je vais le dire comme ça. Dieu en colère, Dieu triste, Dieu qui appelle à la repentance. Si vous connaissez l'histoire d'Israël, vous comprenez pourquoi. D'accord? Donc, il y a beaucoup ça. Alors, la fonction première des livres prophétiques et le rôle premier du prophète, c'était de parler à Israël pour exposer le cœur de Dieu, être là puis transmettre le cœur, les sentiments, les pensées de Dieu, l'appel de Dieu à Israël. Là-dedans, il y a des annonces de jugement, mais l'objectif, c'est toujours de conduire Israël, de l'inviter à la repentance. D'accord? Et dans ce sens-là, je viens à toi, si ce ne sera pas, dans ce sens-là, je l'ai mentionné à quelques reprises aussi, nous faisons tous office de prophète, d'accord? Que ce soit moi, lorsque je prêche le dimanche matin puis que je m'adresse à vous, dans ma préparation, j'ai lu la parole de Dieu, qui est la révélation de Dieu. Je n'ai pas une révélation spéciale pendant la semaine. Je le prends dans le texte déjà révélé, mais je le lis en prière puis je dis, Seigneur, parle-moi, premièrement. Deuxièmement, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Fait que premièrement, je demande, qu'est-ce que tu as dit aux gens à qui tu as donné ce texte-là en premier? Qu'est-ce que tu veux me dire à moi puis qu'est-ce que tu veux dire à l'Église de l'Espoir? D'accord? Et lorsque je m'en viens devant vous le dimanche matin, je le fais avec une... Et ça doit se faire comme ça. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose dans ma démarche qui ne s'est pas bien fait. Je le fais en venant avec la conviction que ce que je vous apporte, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré dans le texte pour vous, pour nous. D'accord? Et donc ça, c'est toute ma démarche. Je fais office de prophète dans ce sens-là. Je n'annonce pas l'avenir, sinon ce qui est dans le texte, mais je vous apporte le cœur de Dieu et le Saint-Esprit vient prendre ce que moi j'apporte et chacun d'entre vous, il vient l'appliquer à votre cœur, à vos situations, à vous, si vous êtes réceptif à l'œuvre de l'Esprit ce matin-là. D'accord? Et dans ce sens-là, bien, tous les croyants, on est appelés à le faire, autant avec ceux qui ne connaissent pas Christ, d'accord, qu'avec nos enfants, que les uns envers les autres, on est appelés à jouer ce rôle-là. Oui, Suzy? Je vais juste répéter pour l'enregistrement ce que tu as dit en gros. Là. Ce que Suzy nous dit, c'est ce qu'elle voit aussi à travers les livres prophétiques. Tu me diras si je résume bien. Mais c'est l'idée que Dieu révèle qu'il est au contrôle en annonçant l'avenir. Ses décrets vont s'accomplir. Ce qu'il a prévu va s'accomplir. Et quoi qu'Israël fasse, Dieu est en train d'accomplir ses propres desseins. Il n'est pas pris au dépourvu par la rébellion d'Israël. En gros, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et donc, en faisant cela, Dieu est en train de nous révéler un peu plus sa personne. D'accord? Toutes les Écritures, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sert à nous révéler qui est Dieu. Et donc, Ça, c'est un aspect de sa personne, c'est que ses décrets s'accomplissent. Ce qu'il a décidé va s'accomplir. Et si à travers son prophète, il annonce quelque chose, ça va se faire, qu'Israël soit rebelle ou soumis, ça change absolument rien. Que les nations, comme dans le psaume 2, que les nations fomentent, travaillent ensemble pour pouvoir manigancer, d'essayer de s'opposer à l'Éternel, ça changera rien. Dieu va faire ce qu'il a à faire, puis ce qu'il veut faire, puis ça finit là. C'est vrai, c'est la révélation de sa personne. Toutes les Écritures font ça, et les livres prophétiques nous révèlent cet aspect-là particulièrement de sa personne. Maintenant, le but premier des livres prophétiques, c'est d'inviter Israël à la repentance. C'est un petit peu comme si je vous disais, vous avez quelqu'un très, très, très à cœur, vous l'aimez, vous voudriez que la personne marche avec le Seigneur, puis tout ça. Et dans la personne, vous avez déjà parlé avec elle de l'Évangile. Ça peut être vos enfants, ça peut être des amis, ça peut être collègues de travail, mais vous avez déjà eu des discussions intéressantes sur Dieu avec eux. Vous avez pu leur présenter un peu l'Évangile, tout ça. Il y a une résistance par rapport à l'Évangile, il y a une résistance par rapport à Dieu, d'accord? Puis là, à un moment donné, vous commencez à vous inquiéter. Vous commencez à vous inquiéter pour leur éternité parce que vous voyez qu'ils résistent à Dieu. Et là, vous commencez à leur parler des décrets de Dieu. Par exemple, une des menaces qu'on utilise probablement tous à un certain moment avec nos enfants, on leur dit, tu sais qu'un jour, quand Dieu décide d'arrêter de courir après toi puis qu'il te livre à toi-même, c'est là que tu vas souffrir. Puis on prie pour dire, oh Seigneur, il faut qu'il allume, il faut qu'il allume avant que tu le livres à lui-même, tu sais. D'accord? Quand je fais ça, là, est-ce que mon objectif, c'est de leur montrer que tu niaises pas avec Dieu parce que Dieu, c'est un tough? Ou est-ce que mon objectif, c'est de les voir revenir à Dieu? Comprenez, mon objectif premier, c'est de les voir revenir à Dieu. C'est ça mon but. Je leur parle de Dieu, je veux leur faire connaître qui est Dieu. Mais mon but, c'est pas qu'ils disent, OK, Dieu est terrible, Dieu va venir frapper tout le monde. Oui, s'ils reviennent à Dieu, ils vont devenir des adorateurs, ils vont adorer ce grand Dieu-là. Et des fois, on se perd là-dedans. Des fois, on se perd là-dedans parce que dans la manière qu'on communique le message, ce qu'on semble dire, c'est que Dieu est terrible. Mais c'est pas premièrement ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore le jour de te repentir parce que Dieu est aussi miséricordieux. Et si je te parle du jugement éternel, si je te parle de l'enfer, c'est pas pour te condamner à l'enfer. C'est pour que tu aies l'opportunité de te repentir. C'est un jour de grâce. Donc, mon but à moi, c'est pas de te terrifier avec Dieu. C'est que tu viennes à lui. D'accord? Ça, c'est mon but. Des fois, on le perd de vue parce que on est tellement inquiet. Moi, je vous dirais, on n'est pas en train de chercher à être conduit par l'esprit dans notre démarche, mais on y va avec notre inquiétude à nous, que tout l'accent est mis sur les terreurs de Dieu. C'est vrai. Dieu est terrifiant. Et je veux que mes enfants, je veux que les gens autour de moi craignent Dieu, c'est vrai. Mais mon but, c'est pas qu'ils marchent en craignant Dieu. C'est qu'ils découvrent l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, puis qu'ils viennent l'adorer. Fait que mon but, c'est pas de les terrifier avec Dieu. C'est qu'ils reviennent à Dieu. Le but des livres prophétiques, c'est pas de dire, non, Israël, vous êtes une gang de rebelles, puis moi je suis un tough, puis moi c'est moi qui règne, c'est moi qui contrôle toutes choses, mes décrets vont s'accomplir. Fait que, savez-vous, tough. C'est jamais ça. Tu sens toujours, écoutez, on venait juste de voir Osée la semaine dernière. C'est quoi le message d'Osée? C'est, t'as beau être vraiment en poche, là, Dieu n'est pas comme toi. Dieu est bon. Dieu est bon, il est patient. D'accord? Et donc ça, c'est le but. Oui, Gérard.
D'ailleurs, il y a un passage dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre dit, les cœurs ont été vivement touchés, puis il dit, que ferions-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous.
Oui.
Que le message de Dieu, c'est « Oui, je vais vous réconcilier, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, je vous ai pardonné. » Mais tout dans le but, c'est « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, je s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. »
Oui.
Alors, Dieu nous avertit, comme Suzy l'a dit tantôt, il y a l'annonce de ce que Dieu veut faire pour nous, c'est toutefois nous nous repentons.
Absolument. Alors, le but de Dieu, c'est cette grâce-là. Est-ce que je le monte plus haut, Louis? Tu m'entends respirer, hein? Non, ça va? OK, c'est bon. On est en train de faire des petits ajustements, je m'excuse. C'est pour votre confort, pas pour le mien. Est-ce que ça va, la nuance, Suzy? Donc, c'est tout à fait vrai. Dans les Écritures, Dieu révèle toujours sa personne. Puis un des aspects de sa personne qu'on trouve dans les livres prophétiques, c'est justement la souveraineté de Dieu. Mais le but premier des livres prophétiques, c'est pas de terrifier, c'est d'amener à la repentance. Et ça, c'est important qu'on le garde en vue, parce que lorsque je parle avec des gens, puis qu'ils me disent « Ouais, mais regarde, c'est parce que je l'ai lu, l'Ancien Testament, là, c'est un Dieu abominable que tu as dans l'Ancien Testament. » Faites attention, là, vous comprenez? Eux autres, ils s'en vont directement pour les situations où tu vois la colère de Dieu se manifester, puis tout ce qu'ils ont retenu de ça, c'est que c'est un Dieu terrible. D'accord? Mais qu'est-ce qui pousse Dieu à faire ça? C'est sa sainteté, son amour, sa grâce. D'accord? Donc, ce sont les vertus de Dieu. Ce que les gens rejettent chez Dieu, comme à leurs yeux, c'est quelque chose d'immoral. Et on s'en va de plus en plus là. Il faut vraiment que vous grandissiez pour être de plus en plus à l'aise, confortable à articuler comme il faut ça. Parce que de plus en plus, les gens vont voir Dieu comme un être immoral. D'accord? Parce que la moralité veut que quelqu'un pourrait assassiner 478 enfants. Si après ça, il dit il y a une grosse larme qui coule, on l'envoie en thérapie, puis c'est réglé. D'accord? C'est ça la moralité. Pauvre petit gars, c'est pas de sa faute. Les autres sont plus là, on peut plus rien faire pour eux, mais on peut faire quelque chose pour lui. Et donc, la moralité veut que, puisqu'on est tous un petit peu abîmés dans la tête, je vais le dire comme ça, bien, il faut avoir compassion de ces pauvres êtres qui massacrent du monde, puis qui après ça, dans le fond, c'est juste parce qu'ils ont un problème psychologique. Puis on fait de la projection, on se projette nous-mêmes pour toutes les niaiseries qu'on fait, puis on se dit, bien, c'est pas vraiment de ma faute, tu sais. Et là, tu arrives devant ce Dieu-là qui dit, non, ultimement, tu as fait le mal, il faut que quelqu'un paye pour ça, mon homme, puis c'est toi, à moins que quelqu'un se porte à ta place volontaire. Puis là, il dit, ouais, mais OK, mais pas pour l'éternité, là, tu sais. Je veux dire, nous autres, c'est quoi, à vie? À vie, c'est quoi? C'est 25 ans, mais après 10 ans, libération, hein? C'est ça, à vie. Hein? Fait qu'éternellement, c'est quoi? 10 ans, 15 ans peut-être? Je veux dire, Hitler, on sort après 150 ans. Alléluia, kumbaya Seigneur. Viens chanter avec nous, ça finit là. De plus en plus dans l'esprit des gens, Dieu va paraître comme un être immoral. Et donc, lorsqu'on parle de jugement, ça va leur apparaître comme quelque chose qui est immoral. Les jugements de Dieu sont le fruit de ses vertus. C'est l'expression de sa perfection. J'insiste là-dessus dans l'Ancien Testament. Je sais que je vous challenge. Certains d'entre vous, vous dites, je comprends Yannick, je pense que tu dis vrai, mais je saurais vraiment pas le démontrer parce que je suis mal à l'aise moi-même avec la manière que Dieu manifeste ça. Il faut que vous arriviez à saisir ces choses-là et à les articuler, d'accord? Les jugements de Dieu, c'est l'expression de la perfection de Dieu, de sa beauté, de ses qualités, pas de ses défauts. Il n'y en a pas de défauts. D'accord? Et donc, je dois être de plus en plus à l'aise avec ça. C'est ce qui va me permettre après ça de me rendre à la croix. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Dieu qu'on adore, c'est pas un Dieu vengeur. C'est Dieu, il est parfait. Et donc, c'est aussi un Dieu miséricordieux. Mais si je suis mal à l'aise avec sa justice et sa sainteté, quand je vais prêcher la croix, c'est comme si elle perd son sens. La croix nous sauve de quoi? Ben, elle donne un sens à ta vie. Ouais, plus que ça, elle donne un sens à ton éternité, parce que ton éternité, il va mal pour tout de suite, là. Ça va être loin de Dieu, ton éternité. Fait que premièrement, la croix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te sauve de la colère divine. La colère divine. Si tu me dis qu'il m'aime, il a envoyé son fils, puis tu me dis après ça qu'il m'haït, quoi. Comprenez? Alors, il faut que je sois à l'aise avec ces choses-là pour pouvoir bien exprimer la croix. Peut-être là, que je parle un peu chinois, puis vous dites, Yannick, c'est trop compliqué. Commencez à faire avancer ça dans votre réflexion. Dans votre présentation de l'Évangile avec les gens, il va falloir que vous puissiez aller sur ces terrains-là. D'accord? J'ai recommandé il y a quelques semaines le livre de Don Carson là, qui vient de sortir en français, Le Dieu qui est là. D'accord? Puis on en a plusieurs copies ici. C'est vraiment, encore une fois, tout le récit, toute l'histoire de Dieu à travers toutes les Écritures et comment est-ce que l'Évangile apparaît à travers tout ça. Lire des livres comme ça va vous équiper progressivement, être capable justement d'être confortable avec toute la révélation de la personne de Dieu dans toute son histoire, puis être capable de prêcher l'Évangile aux gens à partir de n'importe où dans les Écritures et à partir de ce qu'ils vivent dans leur vie. Fait que l'exemple que j'écoutais d'un prédicateur pas plus loin qu'hier, il dit à un moment donné, on développait une amitié, son épouse et lui développaient une amitié avec une voisine, puis son conjoint, puis il y avait du bon temps, puis tout ça. Et puis, après un certain temps, en fait 3 mois de relation, d'amitié, tout ça, la dame a dit, écoute, il faut que tu m'expliques quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner à Dieu? D'accord? Fait que nous, dans notre tête, c'est, non, tu n'as pas compris comment Dieu fait pour te pardonner? Maintenant, si je ne l'écoute pas, la madame, là, honnêtement, là, je manque vraiment d'amour et je ne ressemble pas du tout à Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose derrière cette question-là qui est majeure. Alors, elle, son père était mort dans un accident de voiture comme la veille de son mariage. D'accord? Est-ce qu'on s'entend pour dire que Dieu était au contrôle de cette situation-là? C'est Dieu le big boss, c'est ça que la Bible dit. Donc, Dieu a décidé que ça se passait là. Que ce soit à travers le péché d'un ivrogne ou n'importe quoi, Dieu est souverain et c'est ça qui s'est passé. Sa question à elle, c'est comment je fais pour pardonner Dieu? Donc, son problème à elle, c'est le Dieu de la Bible, c'est Dieu souverain. OK, c'est correct, donc j'en veux pas. Parce que mon père est mort la veille de mon mariage. Vous comprenez? Mais il faut que je sois capable d'aller rencontrer ça, là. Faut que je sois capable d'aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, parler de la réalité du péché, la réalité de ce monde de perdition-là, puis qu'à travers la souffrance, Dieu peut nous amener à nous tourner vers lui, nous aider à réaliser justement qu'il y a plus que juste cette vie-ci, d'accord? Il faut que je sois capable de faire ce cheminement-là avec elle. Et ma conviction très, très claire, puis par la grâce de Dieu, c'est là qu'on s'en va comme Église aussi, c'est que ça ne suffira pas que le bonhomme en avant qui prêche soit capable de répondre à ces questions-là. Ça ne suffira pas parce que vos amis ne viendront pas ici pour m'écouter. D'accord? Vos réponses à cette question-là, de la part de votre ami, va déterminer si après ça, il s'en vient ici m'écouter. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est une bonne question. Mme Paradis demande comment accepter ça. Mais je n'y répondrai pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on survole l'Ancien Testament. C'est pour aller chercher toutes ces réponses-là, d'accord? C'est pour qu'on puisse être capable d'accompagner nos amis lorsqu'ils ont des questions comme ça. Ce sont des bonnes questions. C'est des vraies questions. Et vous savez quoi? Ça se peut que cette question-là que cette dame-là pose, ça vienne carrément de l'Esprit-Saint. D'accord? Parce que l'Esprit peut très bien... L'Esprit commence son travail chez les... non-chrétiens avant qu'ils se convertissent. Hein? Nul ne vient au Père s'il ne l'attire. Alors, l'Esprit est déjà en train de faire une œuvre, de les attirer, travailler. Ça se peut très bien que ce soit une question qui vienne puis qui est là dans son cœur, puis Saint-Esprit dit, vas-y, pose-la. Pose-la, parce que je vais aller te conduire dans toute la vérité. T'sais. Ah, on reviendra sur ça. Mais la réponse, Mme Paradis, c'est tout l'Ancien Testament. C'est tout ça que je vous dis. D'accord? La réponse, c'est tout ça. Il faut que moi, je sois confortable avec l'idée d'écouter. Fait que par exemple, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Je vais vous répondre en une minute à votre question. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Je partirais de sa situation à elle pour parler de la réalité de la mort, pour parler de la réalité de l'état de rébellion de l'humanité entière et le fait qu'il y a quelque chose de déraillé. J'ai un Dieu qui est assez bon pour donner son fils pour qu'il meure sur la croix pour moi. Il n'y a pas plus de bonté que ça possible. Puis un Dieu en même temps qui permet qu'il y ait autant de souffrance qui semble tellement injuste dans le monde. Est-ce que ça se peut que toute cette terre-là soit sous la malédiction de Dieu? Est-ce que ça se peut qu'un Dieu saint en ait assez de voir les hommes s'entretuer et qu'il fasse reposer une malédiction sur toute l'histoire de l'humanité? Qui fait qu'on n'est pas en train de vivre ce qu'on est supposé vivre? La joie, la paix, le bonheur dans une terre merveilleuse en relation avec Dieu, mais on est constamment menacé par les jugements divins qui nous rappellent que notre vie est courte et qu'on doit se préparer à une vie plus heureuse avec lui pour l'éternité. Ça, c'est une réponse que je donnerais à peu près en 3 soirs, d'accord, de 2 heures. Donnez ça en 5 minutes, puis vous venez. Oui, c'est ça, mais là, cette personne-là, elle n'est pas là. Elle n'aime pas Dieu parce qu'il faut qu'elle pardonne à Dieu. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça me demande beaucoup d'écoute. Ça me demande d'entrer dans la relation, d'aller écouter sa souffrance et d'être à l'aise pour aller me promener dans différents textes dans les Écritures. D'accord? Après ça, ce qui est extraordinaire avec les Écritures, c'est qu'on a des histoires avec des personnes. Donc, j'ai des livres qui me parlent de théologie, des doctrines, des vérités qui sont énoncées. Dieu est amour. OK? Maintenant, Dieu est amour, quand je me rends à la croix, c'est pas mal plus concret que Dieu est amour, point. D'accord? Ça fait beaucoup plus de sens à ce moment-là. Parce que je m'en vais à la croix, j'ai une personne qui souffre, qui me vient de la part de Dieu. Donc, quand je connais les histoires de l'Ancien Testament, je peux aller dans plein de vies de gens où ces vérités-là sont illustrées. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va subir quelque chose comme ça. T'sais. Bon, maladroit, j'irais voir tout de suite Uza, puis je dirais, tu vois, Dieu est souverain, tu sais, il a voulu sauver l'arche, l'alliance, l'arche de l'alliance, puis pouf, il était zappé là, tu sais. Non, je pense que je vais aller ailleurs, tu sais. Voilà. Ça va? Alors, allons-y avec le message de Joël. On va souligner quelques éléments, puis je vais terminer à moins 5, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Oui, j'arrive à ta question. Premièrement, le jour de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... C'est la première fois dans l'Ancien Testament que cette notion-là est aussi clairement évoquée. Dans le livre de Joël, c'est la première fois qu'on la trouve aussi clairement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait essayer de me dire c'est quoi... Qu'est-ce que ça veut dire, le jour de l'Éternel? N'ayez pas peur du ridicule, je fais ça tous les dimanches, moi. Des fois, j'ai de l'air ridicule. Personne qui veut s'essayer? C'est un jour d'intervention de Dieu, d'accord? Alors, quand on pense au jour de l'Éternel, c'est pas nécessairement une journée précise, mais c'est un moment où Dieu dit, « Je me lève et vous allez me voir intervenir. » D'accord? Ça peut, dans certaines situations, autant vouloir dire qu'il s'en vient en colère qu'il s'en vient avec grâce et miséricorde. D'accord? Alors, le jour de l'Éternel, ça peut être un jour de jugement, mais ça peut aussi être un jour de grâce. Mais c'est un moment où Dieu dit, la souveraineté, la gloire, la majesté de Dieu va exploser devant vous, va apparaître devant vous, que ce soit à travers des jugements divins ou que ce soit à travers la miséricorde. Oui, Suzy. Il est toujours présent, oui. Dans notre vie, oui, oui. Mais c'est pas le jour du jugement, par contre. Je veux dire, c'est pas le jour où je vais comparaître devant Dieu. C'est pas ça le jour de l'Éternel. Dans les Écritures, c'est présenté dans un contexte public du peuple de Dieu ou des nations ou de la terre, d'accord? Maintenant, oui, ça s'applique définitivement plus personnellement, mais c'est plus parce qu'on va se l'approprier. Quand c'est présenté dans les Écritures, c'est toujours... C'est collectif et ce que Dieu exprime, c'est « Ok, je vous ai laissé faire vos histoires, là. Maintenant ça s'arrête ici. Autant je vous ai laissé pleurer, vous lamenter, maintenant je m'en viens vous faire grâce. » Alors ça peut être tout à la fois un jugement qu'un jour de grâce, d'accord? Et ce que Dieu est en train d'illustrer par là, c'est un petit peu ce que Suzy disait tout à l'heure, on voit dans les prophètes que Dieu est souverain. Et donc le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu se lève et il intervient. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'intervenait pas le reste du temps? Non, il intervenait. Mais souvent, en laissant des circonstances, en laissant des décisions, en laissant des nations. D'accord? Intervenir. Et donc, on va trouver cette notion-là qui va revenir aussi dans le Nouveau Testament. D'accord? Dans le livre de l'Apocalypse, tout ça. Alors, si on va vers le message du livre de Joël, le message du livre de Joël, c'est un message de repentance. Alors, il y a un élément qui est le jugement, mais c'est un message de repentance. Lorsqu'on regarde l'introduction, juste l'introduction brièvement, tout à l'heure, lorsque je disais que c'est possible que le livre de Joël ait été utilisé comme une lamentation, comme constante, qu'Israël pouvait récupérer à chaque année ou des choses comme ça, regardez l'introduction, ça dit « Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. » Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. Donc, il y a vraiment l'idée que ce qui va suivre ici doit servir d'instruction. D'accord? Pour toutes les générations. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait raconter à nos enfants. D'accord? Maintenant, ça va commencer avec quoi? Ça va commencer avec Dieu qui annonce à travers des châtiments naturels. On parle de plusieurs animaux, plusieurs insectes qui ressemblent tous probablement à la sauterelle. On n'est pas capable de toutes les identifier parce que certains de ces noms-là n'ont pas continué à être utilisés dans le temps. Mais Dieu, à travers des animaux, va venir châtier. Ça veut dire qu'il va venir détruire les récoltes, qu'il va venir détruire les productions du pays, tout ça. Mais Dieu dit clairement que c'est lui qui est en train d'intervenir, c'est lui qui est en train de venir frapper. Lorsqu'on arrive à la fin, au verset 14, Joël 1, 14, on a l'appel à la repentance. Ça commence un petit peu plus haut, le verset 13. « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. » Ça veut dire « attachez votre ceinture à vos reins, pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs. « Serviteur de mon Dieu, car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Criez quoi? Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. D'accord? Alors, il y a une anticipation du fait que Dieu se lève pour châtier sévèrement son peuple. Et donc, l'image qui est évoquée ici, c'est que ça va mal dans le pays et les temps nous annoncent qu'il y a des nations qui se lèvent autour de nous, qui vont encore s'en prendre au peuple, qui vont s'en prendre à Israël, et on ne voit pas comment on va pouvoir résister à cette vague-là qui s'en vient vers nous. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est comprenez la menace. Dieu est souverain. Si Dieu permet cette menace-là, c'est parce qu'il veut que vous vous repentiez, que vous reveniez vers lui. Et donc, c'est un message de repentance. C'est un appel à la repentance, encore une fois, que je rencontre ici dans le texte. Un appel à se tourner vers Dieu et à crier à Dieu. Dieu annonce qu'il va y avoir des châtiments. Il annonce un petit peu plus bas, au chapitre 2, qu'il va y avoir des nations très puissantes qui vont venir frapper Israël. Et clairement, Dieu est en train de dire, ce sont des outils entre mes mains. Ce sont mes serviteurs. D'accord? Dans certains livres prophétiques, Dieu parle des nations environnantes qui étaient des nations païennes et il parle d'eux comme de ses serviteurs parce que Dieu s'en sert pour, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, honorer son alliance en venant châtier son peuple. D'accord? Maintenant, lorsqu'on arrive à la... Alors, chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Et le verset suivant, moi, je le trouve absolument phénoménal. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Ce que Dieu veut, c'est une repentance du cœur. Ce que Dieu attend d'Israël, c'est pas quelque chose de formel, c'est pas un mouvement religieux où Israël commence à revenir, puis fait juste revenir à l'Éternel pour des fêtes religieuses, mais ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est des cœurs brisés. Alors, rappelez-vous du sermon sur la montagne, « Heureux les cœurs contrits, heureux ceux qui pleurent. » Pourquoi? Parce qu'ils mesurent l'état de leur cœur et ils mesurent qu'ils sont loin de l'Éternel, ils sont loin de Dieu. Heureux celui qui voit ça, parce que Dieu est touché, Dieu veut faire du bien à celui qui se repent. D'accord? Alors, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. » C'est-à-dire que Dieu, quand on dit qu'il se repent, c'est qu'il va, retirer les maux, il va changer l'intervention qu'il est en train de faire. Il va retirer les la frappe des ennemis contre Israël, d'accord? Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Dans ce contexte-là, c'est même dans l'anticipation de ce qui s'en vient. Déjà, ça va mal dans le pays. On voit que ça va de plus en plus mal. Donc, le peuple a l'opportunité de mesurer que Dieu est en train de se lever contre Israël. D'accord? Israël a la possibilité de prendre conscience que Dieu est en train de se lever contre eux pour venir les châtier, littéralement. Et il les appelle à se repentir tout de suite avant qu'on en soit rendu là, dans l'espérance que Dieu va retenir, comme il l'a fait plein de fois dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, Dieu a décidé de retenir son jugement. Pensez au prophète Jonas contre Ninive, d'accord? Et il l'a fait des milliers de fois en faveur d'Israël. D'accord? S'il l'a fait envers les Ninivites, il l'a fait encore plus souvent envers Israël. Je vais aller tout de suite aux prophéties qui concernent le Nouveau Testament, d'accord? Parce que le temps avance, là. Quelle est l'importance du livre de Joël pour les chrétiens? Mais si vous allez un petit peu plus haut, juste avant ça, j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus bas, là. Au point 2, vous avez par exemple une première citation. Dans Romains 10, 13, Paul va citer Joël, sans nous dire que c'est ça qu'il est en train de citer, mais c'est du mot à mot. Alors, il va dire, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » On a ça dans Joël 2, 32. Joël 2, 32, « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. » Un intérêt pour nous de ça, c'est qu'il nous est rappelé ici que Dieu a toujours sauvé par grâce. Dieu a toujours sauvé par grâce. L'image qui me vient tout de suite, moi, évidemment, c'est dans le désert, les serpents qui viennent, qui est un châtiment de Dieu contre le peuple, et puis Dieu dit à Moïse, « Forge un serpent, mets-le sur ton bâton, et tous ceux qui vont le regarder, je vais leur faire grâce. » Tout ce qu'ils ont à faire, c'est exprimer leur repentance en se tournant vers le moyen que Dieu a donné. Et donc, Jésus va reprendre cette même image-là. Il va dire, comme le serpent est élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé à son tour. Qu'est-ce qui se passe? Je tourne les regards vers Christ. Dieu fait grâce. Je m'en remets à sa grâce, à son pardon. D'accord? Et donc, Dieu a toujours, je suis dans l'Ancien Testament ici, Dieu a toujours sauvé par grâce. Ça a toujours été le moyen que Dieu utilisait pour sauver. Ça a toujours été par le moyen de la foi. Par la foi, je me tourne vers Dieu et j'ai confiance en l'Éternel qu'il est gracieux. J'invoque sa grâce. J'invoque son pardon. D'accord? Maintenant, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, le lien plus direct encore avec le Nouveau Testament, évidemment, c'est la prophétie de Joël 2, 28-29. Alors, si vous regardez avec moi Joël 2, verset 28-29, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Tout à l'heure, là, je vous disais, il y a comme... Rappelez-vous mon image, là, on est sur la cime des montagnes, puis on est sur la cime d'une montagne, puis on voit comme des bonds dans le temps. Je veux dire, vous passez du verset 27 au verset 28, puis vous dites, OK, il y a un petit trou, là. Quelque chose qui se passe, de quoi tu parles ici, d'accord? On ne l'a pas. C'est, on est dans des livres prophétiques. On n'est pas dans un livre narratif où j'ai une histoire qui se continue, d'accord? Je suis dans un livre prophétique. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Lorsqu'on arrive au jour de la Pentecôte, alors dans le livre des Actes, le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, s'est présenté aux disciples pendant un certain nombre de jours. Et puis ensuite de ça, il annonce, il dit, je m'en retourne vers mon Père, c'est l'ascension. Et il dit, je vais vous envoyer mon esprit, attendez ici. Les apôtres avec les disciples sont en train d'attendre justement cette effusion de l'esprit qui va venir. Et au jour de la Pentecôte, lorsque les gens commencent à... Il y a une manifestation surnaturelle alors qu'ils étaient en prière. Le Saint-Esprit vient, d'accord? Et il y a comme des langues de feu, il y a quelque chose là qui décrivent comme ça ce qu'ils ont vu. Quelque chose de surnaturel qui vient sur les gens. Et les gens se mettent à parler en langue. D'accord? Et lorsqu'ils parlent en langue, ils parlent dans les langues de toutes sortes de personnes qui sont là. Donc, c'est des langues humaines qui sont là. Mais ils annoncent les merveilles de Dieu. Et là, je viens à la question de Gérard. La question de Gérard, tout à l'heure, c'était ce qui est décrit ici, par exemple, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même les serviteurs et les servantes dans ces jours-là. La question de Gérard, c'est oui, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé à la Pentecôte. Je suis pas tout à fait d'accord. Okay? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est une bonne question, c'est une excellente question. Maintenant, comprenez la réponse de Pierre, puis je vais m'expliquer après. Comprenez la réponse de Pierre. Quand Pierre dit, c'est ceci à quoi vous assistez, il dit aux Juifs qui sont là, puis ils disent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous sous. Ils sont tous en train de parler en même temps. Ils parlent dans toutes sortes de langues. C'est comme chaotique, cette affaire-là. Puis en même temps, un Juif qui était pas, qui vivait pas en Israël, donc qui parlait une autre langue, qui était là pour la Pâque, entendait la gloire de Dieu annoncée dans sa langue à lui. Donc, oh, qu'est-ce qui se passe là? D'accord? Lorsque Pierre dit, c'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir ici, comprenez ceci comme Pierre est en train d'annoncer un jour nouveau. Et tout le livre des Actes sert entre autres à démontrer que c'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. D'accord? Alors, prenez-le pas seulement pour le jour de la Pentecôte, mais prenez-le pour tout le livre des Actes. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? Je vais revenir au jour de la Pentecôte après. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? Dans le livre des Actes, on voit que l'Esprit est mis dans le cœur de chacun des croyants. Ça va se manifester par une vie communautaire entre les croyants qui est du jamais vu dans l'histoire d'Israël. Les Juifs qui sont là voient l'Église nouvelle, puis les voient s'aimer, prendre soin les uns des autres, pourvoir aux besoins les uns des autres, être charitables, avoir une communion telle qu'on aurait voulu la voir à la lumière de la loi dans l'Ancien Testament, mais qu'on n'a jamais vu en fin de compte en Israël. Puis là, ouf, ça semble être naturel cette affaire-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit, à quoi ils assistent? Ils voient des gens qui étaient sans instruction, comme Pierre. Puis qui s'en vont, puis qui parlent avec la même force, le même courage, la même clarté de pensée, la même lucidité dans l'explication des prophéties que Jésus de Nazareth lui-même. Mais ce sont des gens sans instruction. Du jour au lendemain, quand ils se présentent devant les autorités juives de l'époque, ils disent « Mais c'est quoi ces gars-là? » Ils n'ont aucune instruction. Qu'est-ce qu'ils font là? Comment ça qu'ils nous parlent de toutes ces choses-là? Et ce qu'on voit à travers le livre des Actes, je vais le dire comme ça, mais on voit une espèce de démocratisation pas dans le sens d'un processus démocratique, mais dans le sens d'un partage du ministère de l'Esprit envers tous les croyants. D'accord? Dans l'Ancien Testament, c'était des chefs sur qui l'Esprit venait, le roi, les prophètes. Certaines personnes qui doivent faire des interventions à des moments précis, l'Esprit de Dieu vient sur eux. D'accord? Autrement, ce qu'on voit plutôt dans l'Ancien Testament, c'est que l'Esprit est comme, je dirais, au-dessus du peuple. Et il influence le peuple d'Israël, c'est clair, il y a des mouvements de réveil, tout ça, mais il n'habite pas chacun des croyants. Quand j'arrive dans le livre des Actes, ce à quoi on assiste, et Luc s'efforce de démontrer ça, c'est que tu peux plus définir, OK, mais lui va faire des miracles, puis lui en fera pas. Parce que, par exemple, lui, c'est un apôtre. Non, il y en a qui n'étaient pas des apôtres qui ont fait des miracles. Par qui Dieu a fait des miracles absolument incroyables? OK, Dieu va nous enseigner à travers telle personne qui a telle formation. Ben, quand vous arrivez, par exemple, dans le livre de Philémon, c'est ça la grande difficulté, c'est que vous avez Onésime, qui était son ancien esclave, qui finalement est plus connaissant puis plus utile, si je peux dire, dans le royaume que Philémon lui-même. Et ça, c'était une des tensions à l'intérieur de l'Église, c'est que tout d'un coup, le Saint-Esprit il est sur tous les croyants. Fait que le Saint-Esprit il fait pas de discrimination en disant « Ah ben toi, je veux dire, t'as beaucoup d'argent, t'es respecté en ville, fait que t'es maintenant l'homme de sagesse qui se tient aux portes de la ville. » Non, ça marche pas de même, ça peut être n'importe qui dans l'Église qui se lève puis qui commence à enseigner, parce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde, d'accord? Alors le livre des Actes, c'est une démonstration que la prophétie de Joël a commencé à s'accomplir. D'accord? Et donc, je crois, pour revenir sur la question de Gérard, je crois que c'est une des dimensions de la prophétie à laquelle on assiste au jour de la Pentecôte, quand les gens commencent à annoncer les merveilles de Dieu. D'accord? Ils sont en train de prophétiser à ce moment-là. Ils ne sont pas en train de prophétiser nécessairement dans le sens de dire « Attendez, Jérusalem, un jugement vient sur vous dans 365 ans, puis c'est ça qui va se passer. » Ils sont en train de prophétiser dans le sens qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, puis ils annoncent les gloires de Dieu. Ils annoncent les merveilles de Dieu. Et ça ne vient pas d'eux-mêmes, d'accord? Et c'est définitivement un aspect de la prophétie. Ils sont en train de faire ça. Des gens qui étaient sans instruction, des gens qui n'étaient pas censés pouvoir comme, être éloquents comme ça avec les vérités de Dieu. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Gérard? Et donc, c'est ça, le livre de Joël, pour nous, est important parce qu'il nous dit qu'on est en train de vivre dans cette époque-là. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Je vais terminer là-dessus, d'accord? Il est 1h10. Qu'est-ce que je veux tirer personnellement du livre de Joël? Bien, moi, pendant que j'étais en train de le méditer cette semaine, pendant que j'étais en train de le lire l'autre semaine avant, la première chose qui touchait encore une fois mon cœur, c'est cet appel à la repentance. Si je sens que mon cœur n'est pas déchiré devant Dieu. Si je sens que je suis pas une personne qui est brisée par mon propre péché, puis pourtant je me sens loin de Dieu. L'appel qui m'est fait dans le livre de Joël, c'est d'aller devant l'Éternel, de crier à Dieu, de me repentir, d'accord? Et personnellement, je l'ai pris pour moi, cette invitation-là, d'accord? J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, il y a des choses dans ma vie où ça va tellement bien avec toi, mais il y a d'autres domaines où j'ai l'impression que c'est des idoles qui, l'expression en anglais, they want to creep in. Tu sais, ils veulent comme rentrer dans mon cœur et venir juste garder une emprise sur moi. J'ai dit, Seigneur, l'appel que tu me donnes à travers Joël, c'est d'aller dans la repentance. De me repentir. Et l'image qui nous est donnée ici, c'est pas une prière le matin de 5 minutes puis ça s'arrête là. C'est que j'entre dans une période de repentance. J'entre dans une période de confession. J'entre dans une période de jeûne. Lorsque je vous ai lancé un défi à l'Assemblée il y a 2 semaines de ça, en vous partageant le projet que je crois que Dieu a mis sur mon cœur, sur le cœur des anciens pour cette période de ressourcement d'études que je vais faire, je vous ai lancé un défi aussi. Il y a 92 personnes qui ont rempli l'engagement à prier pour moi à tous les jours, à prier pour vous à tous les jours, pour que Dieu vous montre si votre cœur est prêt pour la mission, puis qu'il prépare votre famille pour la mission aussi. Et il y en a qui m'ont dit, j'ai pas signé encore Yannick parce que c'est trop sérieux cette affaire-là, puis faut que je considère ça devant Dieu pour de vrai. Mais ça se peut que lorsque le pasteur vous lance un défi comme celui-là, vous dites, oui, mais mon cœur est trop froid. Le message de Joël pour vous, c'est quoi? Entrez dans une période de repentance, dans une période de jeûne, où vous cherchez la face de l'Éternel. Vous n'allez pas clairer ça, vous n'allez pas classer ça en 5 minutes. Ça va être un travail qui va se faire sur des semaines, sur des mois. Personnellement, je vous l'ai dit souvent, j'ai eu une telle période qui a duré 2 à 3 ans. D'accord? Il y avait encore des liens, il y avait des choses où mon cœur n'était pas consacré, puis j'étais constamment ramené à ça. D'accord? Et j'étais triste dans mon cœur, je servais Dieu, mais il y avait ce cœur-là qui était divisé. Deuxième élément, je termine avec ça. Ce que je veux tirer personnellement du livre de Joël aussi, c'est que Pierre me dit que cette période-là est accomplie, cette prophétie-là est accomplie. Et donc, je ne veux pas, et c'est vraiment ma prière pour toute l'Église aussi, je ne veux pas me satisfaire d'une vie où le Saint-Esprit n'est pas pleinement à l'œuvre dans ma vie. D'accord? Et moi, je n'ai aucun problème à dire, Dieu, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que mon cœur n'est pas en feu pour toi. Je ne suis pas content parce que je sens qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en feu pour toi. Je ne suis pas content parce que je ne vois pas le fruit de l'Esprit constamment présent dans l'Église, constamment présent dans ma vie. Et j'aspire à ça parce que tu m'as dit que c'était maintenant. Tu es fidèle, tu as commencé à le faire à la Pentecôte, tu continues à le faire maintenant. Et ça, c'est une exhortation que je vais prendre pour moi. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est merveilleuse. Ton esprit est merveilleux, Seigneur. Et la Pentecôte est accomplie. Ton esprit est là pour faire une œuvre tellement grande dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous donner un cœur, des cœurs contrits, des cœurs repentants qui crient à toi, qui cherchent ta face, Seigneur. Parce que nous désirons être remplis de ton esprit et vivre ces jours merveilleux où chacun, poussé par l'Esprit de Dieu, a des paroles de grâce, des paroles de bénédiction à donner, a un message, l'Évangile à annoncer. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'en prions, Père. Amen.